Marie-Madeleine est sûrement une des figures les plus attachantes de l'écriture, parce que elle nous révèle d'une manière très particulière la miséricorde du cœur de Jésus. Marie-Madeleine apparaît comme celle dont Jésus a chassé les 7 démons. Ceci est affirmé dans saint Marc, dans saint Matthieu, dans saint Luc. Elle est celle qui était liée à Jésus, convertie d'une manière très particulière. Je n'entre pas ici dans toutes les questions exégétiques pour savoir si Marie-Madeleine, c'est la femme pécheresse qu'on voit entrer auprès de Jésus au milieu d'un repas où Jésus avait été invité par Simon le pharisien. C'est très possible, c'est même presque sûr, mais au point de vue exégétique, ça pose des tas de problèmes. On comprend très bien les pères de l'Église qui regardaient beaucoup plus l'aspect de la finalité de l'Écriture, pourquoi l'Écriture est écrite pour nous faire découvrir le mystère de Jésus et nous faire découvrir la miséricorde de Jésus sur chacun. N'hésitez pas de mettre un lien entre toutes celles qu'on a séparées ensuite, mais peu importe ici, c'est pas ça que nous allons regarder. Nous allons comprendre que pour la France, Marie-Madeleine a été reçue d'une façon très particulière dans le midi de la France. Quand on pense à Saint-Maximin, quand on pense à tout ce que représente ce lieu que le père Vézières aimait tellement, la Sainte-Baume, où, selon des légendes, j'ai dit des légendes plutôt qu'une tradition, Marie-Madeleine avait terminé sa vie. Et le père Vézières disait: je ne sais pas si elle est venue vraiment, ce que je sais, c'est qu'elle est là, et que ce lieu est béni par elle. Et c'est vrai que tous ceux qui ont connu la Sainte-Baume, et qui ont vécu longtemps à la Sainte-Baume, le disent, il y a une grâce particulière de Sainte Marie-Madeleine. C'est curieux que la France soit liée à Saint-Jean par Saint-Irénée, disciple de Polycarpe, disciple de Jean. Il y a donc toute cette grande tradition joannique. Et puis il y a ce lien particulier, peut-être légendaire, mais qui exprime quand même quelque chose de très profond, que la France est liée à Marie-Madeleine. Et donc, il nous faut essayer de comprendre ce que représente Marie-Madeleine. Au point de vue de la sainteté, Marie-Madeleine a eu sûrement une vie particulièrement tourmentée. On n'a pas de détails, c'est pas la peine. 7 démons, ça en dit long. Et c'est la présence de Jésus qui l'a convertie. Là aussi, nous ne savons rien. Marie-Madeleine n'a pas dit et n'a pas exposé comment la présence de Jésus l'avait bouleversée. Enfin, elle rencontrait quelqu'un qui pouvait l'aimer pour elle-même. Et c'est, je crois, cela qui a bouleversé cette femme qui ne devait pas être n'importe qui menait sans doute une vie très dissolue, ayant, il semble bien, de grands moyens, et donc vivait largement cette vie dissolue. et dans cette vie, subitement, elle rencontre quelqu'un qui a dû la regarder dans un regard d'une profondeur et un regard de miséricorde et d'amour, qui a bouleversé son cœur et qui a fait qu'elle a compris que tout ce qu'elle vivait jusque-là n'était rien, ce n'était pas le véritable amour. Rencontrant cet homme qui pouvait l'aimer d'une manière désintéressée, c'est-à-dire l'aimer pour elle-même, c'est cela qui a dû transformer toute la vie de Marie-Madeleine. La grâce donnée par le Christ, mais aussi ce contact divin et humain qui a touché sa sensibilité, qui a touché son cœur, trop aimant. Et c'est pour ça qu'il était si mal aimant, mais qui a redécouvert par Jésus quelque chose de tout à fait nouveau. Sous ce point de vue-là, Marie-Madeleine est tellement actuelle, c'est tellement celle qu'on voudrait faire connaître à une quantité de jeunes qui sont éperdus d'amour, qui cherchent un absolu et qui ne trouvent pas. Et qui, à la place d'aimer vraiment, se contentent uniquement d'un amour superficiel, d'un amour léger, d'un amour, comme les Grecs diraient, d'Aphrodite, c'est-à-dire, au fond, un dilettantisme à l'intérieur d'un amour qui fait qu'à la place d'aimer vraiment, on ne recherche qu'une petite joie, peut-être très forte, mais momentanée, et très sensible, et on perd toutes ses forces par cet amour facile, par cette séduction. Combien de jeunes d'aujourd'hui sont pris par cela? Et Marie de Magdala a sûrement été prise de cet amour-là, facile, ayant encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, des moyens, il semble bien. Peut-être que c'était justement Marie, la sœur de Lazare, qui, en action de grâce, a versé ce qui lui restait de sa vie première, ce parfum d'un grand prix. Et j'en souligne simplement que c'était celle qui avait essuyé de ses cheveux les pieds de Jésus, qu'elle avait trempé de ses larmes. Comme Jean aime d'indiquer les personnes par un geste qui les caractérise sans les nommer, Jean a nommé Marie de Magdala qu'au moment de la résurrection. Autrement, il a simplement dit que cette Marie, c'était celle qui s'était jetée aux pieds du Seigneur. Et dans ce repas si extraordinaire, ce repas de Béthanie, juste avant la grande semaine, dans ce repas d'action de grâce à cause de la résurrection de Lazare, je crois que Marie, celle qu'on présente comme Marie tout court, mais qui doit être la Marie de Magdala, qui avait sans doute deux vies, à Béthanie et puis à Magdala. Marie a compris à ce moment-là que la véritable action de grâce, c'était pas tellement d'avoir ressuscité Lazare, c'est d'avoir ressuscité son âme, d'avoir ressuscité son cœur, et que c'était cela dont il fallait avant tout remercier Jésus. Il était le sauveur de son âme. Il était celui qui avait transformé sa vie. Et à ce point de vue-là, c'était encore bien plus grand que d'avoir sauvé de la mort son frère Lazare en le ressuscitant. Il semble bien qu'il y ait entre Marie, la sœur de Lazare, et Jésus un lien très unique. Saint Jean a rapporté cette scène admirablement quand il voit que Marthe se précipite auprès de Jésus et que Marie l'attendait. Elle ne savait pas que Jésus était là. Elle restait à pleurer son frère parce que le cœur de Marie connaissait une profondeur que le cœur de sa sœur ne connaissait pas. Quand on est trop actif, l'amour ne peut pas pénétrer aussi profondément dans notre cœur. Pour que l'amour pénètre très avant, il faut cette réflexion, il faut ce silence, il faut cette paix. Et quand on aime beaucoup, on est très capable de souffrir et de souffrir encore beaucoup plus que quelqu'un qui est dans l'agitation. Et c'est pour ça que la mort de son frère avait creusé dans le cœur de Marie une blessure très vive, une blessure d'autant plus forte qu'elle savait que Jésus aurait pu venir et que Jésus les a laissés dans leur souffrance. Et je crois que c'est ça qui a blessé le cœur de Marie. Et c'est pour ça que quand Jésus est là, elle le dit. Si tu avais été là. Marthe a dit la même chose, mais Marie l'a dit d'une autre manière, avec une autre profondeur. Et c'est cette profondeur qui touche le cœur de Jésus. Et Jésus se met à pleurer devant celle qui pleure son frère. Et les pleurs de Jésus sont relatifs à la blessure et la souffrance de Marie, la sœur de Lazare. Et Jésus, à cause de la souffrance qui lui est présentée, va ressusciter Lazare. Je crois que le geste de Marie, verser le parfum d'un grand prix sur les pieds de Jésus pour le remercier de ce qu'il a fait pour son frère et plus profondément de ce qu'il a fait pour elle. Mais sans doute qu'on ne le disait pas cela et qu'on ne pouvait pas le dire et qu'elle seule le savait bien qu'il était le sauveur de son âme. Ce geste de Marie, la sœur de Lazare, a une éloquence unique. Verser sur les pieds de Jésus ce parfum d'un grand prix. Et ensuite, essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Comme c'est beau. Comme c'est grand, et comme c'est un langage, je crois que tous les jeunes d'aujourd'hui comprennent que Jésus ait permis que cette femme qu'il avait convertie, qu'elle lui avait donné une nouvelle vie d'amour tout intérieur, comme ce geste Jésus l'accueille, l'accepte. Jésus est de connivence avec elle, d'une façon étonnante par son silence. Et ce geste de Marie scandalise Judas. Il scandalise Judas à cause du silence de Jésus. Il scandalise Judas parce que c'est une pure perte. On aurait pu vendre ce parfum d'un grand prix. Et Judas avait l'œil sur ce parfum. Il savait bien que c'était un parfum d'un grand prix, 300 deniers. Le denier, le salaire d'une journée de travail. Alors on voit ce que ça représente. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres. Et Saint Jean souligne, c'est pas du tout pour donner aux pauvres. C'était parce qu'il tenait la bourse et qu'il désirait avoir cet argent pour lui. Mais ce qui est important, c'est de voir ce geste de générosité de celle qui avait tout reçu de Jésus, qui avait reçu tout son amour. Malgré ses fautes, malgré ses péchés, malgré sa vie, qui s'est partie dans tous les sens. Malgré ça, Jésus l'a aimé. Il l'a aimé au plus intime de son cœur pour réveiller en elle une nouvelle force d'amour. Et alors, on ne peut pas remercier Jésus autrement que de cette façon. Et ça, c'est très grand. Tout est grand dans le cœur de Marie de Magdala. Tout est grand, rien n'est petit. J'allais dire sa faute elle-même est grande, sept démons. La miséricorde du Christ sur elle a été très grande. Elle a beaucoup péché, mais elle a beaucoup aimé. Et elle aime encore plus. Et c'est cela que Jésus aime en elle. C'est cette capacité, j'allais presque dire, d'aller jusqu'au bout. Les tièdes, je les vomirai. C'est dit dans l'Apocalypse, là. Et c'est bien le cœur de Jésus. Jésus ne peut pas supporter la tiédeur. Les tièdes, je les vomirai. Ceux qui sont ni chauds ni froids. Eh bien, Marie de Magdala, elle a un cœur chaud. Qui a plu à Jésus. Et que Jésus a aimé. Marie Magdala s'est mise à suivre Jésus. Selon Saint Luc, elle a suivi Jésus dans toute sa vie apostolique, après sa conversion, comprenant que seul Jésus pouvait combler son cœur. Et Marie de Magdala l'a suivi jusqu'à la croix. Elle fait partie de ces saintes femmes qui sont fidèles jusqu'au bout. Les apôtres, sur 12, il n'y en a qu'un. Les saintes femmes sont plusieurs. Fidèles. Et on devine la blessure dans le cœur de Marie de Magdala, assistant au chemin de croix de Jésus. Cette montée au calvaire, assistant à la crucifixion, assistant à cette solitude de Jésus sur la croix, au milieu de ceux qui l'insultaient, de tous ses ennemis. Et quand elle regarde Jean, Marie de Magdala n'a pas dû supporter que Pierre ne soit pas là. Il aurait dû être au moins deux. Et non, c'est le petit Benjamin, le petit dernier. Celui qui aussi avait un cœur ardent. Celui aussi qui n'aimait que Jésus. Il y a comme une espèce de rencontre très étonnante à la croix. En entre Marie de Magdala et Jean. Aux rencontres qui n'est pas une rencontre directe, c'est Jésus que Jean regarde, c'est Jésus que Marie de Magdala regarde. Et quand on regarde avec une très grande intensité quelqu'un qu'on aime, qu'on regarde la même personne au moment de ses plus grandes souffrances, au moment de ses plus grandes douleurs, dans le cœur de celui qu'on aime, et de celui qui est blessé à mort, dans son cœur douloureux, on est uni dans le silence. Jean n'a pas adressé une seule parole à Marie de Magdala, et Marie de Magdala n'a adressé aucune parole à Jean. Mais ils sont unis. Ils ont été les témoins vivants du même drame, du même mystère. Ils ont été les témoins vivants et fidèles de cette crucifixion, de ce drame de la croix qui domine tous les autres drames, de cette lutte que Jésus a connue à la croix. Et que Jean, témoin privilégié, parce que disciple bien-aimé, a pu découvrir, a pu connaître d'une manière unique. Et Marie de Magdala, à sa manière, plus loin, avec un respect, mais quand même toute proche, la plus proche possible. Elle vit le drame de la croix, elle vit toutes les souffrances du Christ d'une manière unique. Elle est blessée. Oh, si on pouvait comparer ces trois compassions, celle de Marie, la mère de Jésus, celle de Jean, Jean compatit, et Jean connaît cette compassion. Et celle de Marie de Magdala. Au ciel, on verra cela. Et ce sera magnifique d'avoir commencé trois. Vive le mystère de la croix du Christ. Chacun selon une modalité privilégiée et unique. C'est sûr, Marie, la mère de Jésus, pénètre plus avant dans le silence du cœur du Christ. Marie, la mère de Jésus, à cause de l'intensité de sa foi, de son espérance et de son amour, vit le mystère de la compassion. C'est pour ça que quand on parle de la compassion, on ne parle que de Marie. Parce que Marie vit ce mystère d'une manière très unique, dans sa foi. Dans son espérance et son amour, elle porte tout ce que Jésus porte. Elle le vit pour compléter, pour achever au plus intime de son âme tout ce qui manque à la passion de Jésus. Il ne manque rien, nous le savons, au point de vue qualitatif, au point de vue intensité, mais au point de vue de l'extension. Elle peut compléter parce que la souffrance de la croix peut pénétrer plus intimement dans son intelligence parce qu'elle vit le mystère de la croix dans sa foi, dans son espérance et dans son amour. Par là, elle peut offrir son intelligence, elle peut offrir les désirs les plus profonds de son cœur, brûlés par la plénitude d'amour qui est en elle, et qui est une plénitude d'amour qui l'unit au cœur de Jésus, dans l'Esprit Saint, d'une manière unique. Mais à côté de ce mystère de la compassion, il y a Jean, le disciple bien-aimé, qui lui aussi vit ce mystère de la croix dans sa foi, son espérance et son amour. Et Jésus veut que la compassion de Jean s'achève dans la compassion de Marie, puisque Jésus lui donne Marie comme mère. Il y a cette troisième compassion très différente, celle de Marie de Magdala. Et je dis bien très différente, parce que elle est sans doute vécue avec une passion bien plus forte. En Marie, tout est intérieur. Oh, elle vit dans sa sensibilité, mais l'intériorité est si grande en Marie que toute sa sensibilité est comme polarisée par cette intériorité, d'un amour si pur, si limpide pour Jésus, d'un amour si divin. En Jean, c'est moins intériorisé, mais c'est quand même déjà tellement intériorisé. En Marie de Magdala, on sent bien que tout prend une véhémence unique. Il faut que la compassion soit vécue dans cette véhémence du cœur d'une femme qui aime Jésus, qui l'aime follement. Et c'est toutes ces passions, dans sa générosité, dans sa colère, ou comme elle a dû être en colère, devant cette injustice de l'innocent, rejeté, que le peuple d'Israël, son peuple, ait préféré Barabbas à Jésus. C'est terrible pour le cœur de Marie de Magdala, ça. Elle qui sait ce que peut être Barabbas. C'est terrible pour le cœur de Marie de Magdala de voir la manière dont les grands prêtres préfèrent César à la royauté de Jésus, qui est une royauté d'amour. Comme le cœur de Magdala, comme le cœur de Marie de Magdala a dû être labouré de torture devant toutes ces injustices, devant toutes ces lâchetés, la lâcheté même des apôtres. Ils sont pas là. Et le reniement de Pierre, tout ça c'est terrible pour elle. Dans le cœur de Marie, tout est dépassé dans une paix d'amour et dans une profondeur d'amour unique. Dans le cœur de Jean, c'est aussi dépassé à cause de cette intimité si grande avec le cœur de Jésus. Mais dans le cœur de Marie de Magdala, dans le cœur de cette femme si généreuse, si véhémente, c'est terrible le mystère de la croix. Scandale, folie. Oh, comme elle l'a vécu, ce scandale et cette folie. Il y a quand même un lien d'amour pur pour Jésus. Mais c'est la grande tempête. Et on le voit bien, cela. Il suffit de comprendre par contraste ce que Jean nous dit dans son évangile, dans le chapitre 20, quand Jean nous montre l'attitude de Marie de Magdala qui, dès qu'elle le peut, va rejoindre le sépulcre. Elle a vu la manière dont on a mis Jésus dans le sépulcre, le cadavre de Jésus dans le sépulcre. Elle l'a vu de ses propres yeux. Et elle devait rugir intérieurement de ne pas pouvoir rester là, auprès du sépulcre. Elle a dû rugir de voir qu'on avait roulé cette grosse pierre à cause du sabbat. cette cérémonie qui était si rapide. Nicodème et Joseph d'Arimathie qui ont fait les rites funéraires, mais qui l'ont fait rapidement parce qu'il le fallait. Et pour Marie de Magdala, c'est insupportable, ça. Quand on aime quelqu'un, on veut lui donner ce dernier témoignage d'amour dans ses rites funéraires et montrer que son corps cadavérique nous est encore si précieux parce que c'est le corps, le cadavre de celui qu'on aime. Et c'est pour ça que dans le cœur de Marie de Magdala, quand elle est obligée de retourner chez elle, il y a une idée fixe. Venir le plus vite possible au sépulcre pour baiser le cadavre de Jésus, pour pouvoir l'envelopper de parfum. Et à sa manière de femme, de réaliser une sépulture qui soit digne de lui. Le premier jour de la semaine, Marie la Madeleine vint au tombeau le matin, alors qu'il faisait encore sombre. C'est net, et Jean seul a saisi ça, parce que Marie de Magdala lui a raconté, lui a dit comment elle avait passé ces quelques jours d'attente. Ce dernier sabbat, le grand sabbat, pour le repos du corps du Christ, pour le repos du cadavre de notre Dieu. Comme si tout le sabbat avait été pour cela, pour que le cadavre de notre Dieu repose dans les mains du Père et que personne ne soit là pour cette garde d'honneur, puisque s'il y a des soldats, c'est uniquement pour empêcher qu'on vienne voler le cadavre du Christ. On avait trop peur, les grands prêtres avaient trop peur que ses amis le prennent et prétendent qu'il s'était ressuscité. On voit très bien comment Marie de Magdala veut être la première, seule, avant tous les autres. Elle savait bien que les saintes femmes viendraient, mais elle voulait être la première. Et elle a été la première. Alors qu'il faisait encore sombre, elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle ne pensait qu'à cette pierre, comment l'enlever? Et voilà que cette pierre est déjà enroulée. Et donc quelqu'un est passé avant elle. Ça, c'est affolant pour son cœur. C'est une nouvelle brisure. Quelqu'un est passé avant elle, la pierre est roulée. On a donc enlevé le cadavre de celui qu'elle aimait, de son Jésus. À ce moment-là, elle n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de courir à toute vitesse, le plus vite possible, auprès de Jean. Le texte de saint Jean, à ce point de vue-là, est très extraordinaire. On voit comment Jean se cache derrière Pierre. Il court donc et vint vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Il est bien évident qu'elle ne court pas vers Simon-Pierre. Simon-Pierre, il n'était pas là au moment de la croix et au moment du sépulcre. Et donc c'est pas lui. Auprès de qui elle peut aller? C'est auprès de Jean. Et on comprend très bien Simon Pierre a pleuré son péché. Simon Pierre n'est pas retourné chez lui, mais chez Jean. Auprès de Jean, il n'y a que Jean qui peut le comprendre et l'aider. La bêtise qu'il a faite, renier son Jésus au moment précis où il va connaître la grande souffrance de la croix. Lui qui voulait le défendre, voilà qu'il l'a renié. On comprend le désespoir de Pierre et qu'il n'y a que Jean qui peut l'aider. Et donc il s'est précipité auprès de Jean, passé ce sabbat avec Jean. Et Marie, dans le silence, on la laisse seule. Parce que sa souffrance est trop grande. Et qu'on respecte sa souffrance. Jean respecte le silence de Marie. C'est son attitude filiale pour Marie qui se traduit d'abord dans le respect de son silence et de sa souffrance. Souffrance qui dépasse toutes les souffrances. Et Jean le sait, il devine. Et donc Marie de Magdala va au-devant, va auprès de Jean. Et elle découvre Simon-Pierre et l'autre disciple. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Le « nous », c'est les saintes femmes. L'ont sans doute rattrapé, elle les a peut-être rencontrés, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et il venait au tombeau. Alors on voit cette petite course au tombeau, merveilleuse, la légèreté de Jean, et le poids qui est dans le cœur de Pierre, qui fait qu'il le suit lentement. Et Marie de Magdala a dû être tout près de Jean, laissant Pierre derrière. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se retrouvent là, tous les trois. Les trois. Pierre, Jean, et Marie de Magdala. Il se trouve au tombeau, devant le silence du tombeau, devant cette pierre roulée. Pierre pénètre le premier, puis Jean et Jean, devant le suaire, bien roulé à sa place. Immédiatement, il comprend. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Et on nous montre la manière dont Marie de Magdala se tenait près du tombeau, dehors, tout en pleurs. Donc, comme elle pleurait, elle se pencha vers le tombeau. Une fois que les apôtres sont partis, elle reste seule en pleurant. Ou dans son cœur, elle a dû considérer que les hommes se consolaient facilement. Quand elle a vu Pierre partir et Jean partir, ils l'ont laissé là. Et quand elle est seule alors, elle veut quand même pénétrer et voir ce qu'il en est. Et donc elle pleurait et elle se pencha vers le tombeau elle voit deux anges en blanc assis où avait été placé le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre à ses pieds. Et ceux-ci lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Ils interrogent pour savoir la raison de ses pleurs, tellement elle est la femme défigurée par les pleurs. C'est curieux, les pleurs sur les pieds de Jésus, les pleurs sur le vide du tombeau. Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur dit, c'est qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. Et en dit cela, elle se retourna en arrière, et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'enleverai. C'est très extraordinaire, ces deux rencontres successives. Voulues par la sagesse de Dieu, pour sonder le cœur de Marie de Magdala, femme, pourquoi pleures-tu ? C'est vraiment sonder le cœur de Marie de Magdala, pour essayer de la faire sortir de ses pleurs, qui sont des pleurs passionnelles, sensibles. Oh, c'est bien à cause de Jésus, mais la foi de Marie de Magdala est comme endormie par sa souffrance. Et les pleurs enveloppent tout. Et les anges veulent la faire sortir. Pourquoi pleures-tu ? Les apôtres n'ont pas osé poser la question. Il n'y a que des anges qui peuvent poser ces questions. Les apôtres n'ont pas osé dire à Marie de Magdala, pourquoi pleures-tu ? Même pas Jean. Tandis que l'ange pose la question. Et elle, sachant pas qui c'était, elle dit le désir de son cœur. Et le désir de son cœur, c'est net. Elle veut de nouveau être en présence du corps du Christ. C'est son unique préoccupation. Et quand Jésus lui repose la même question, elle redit la même réponse. Et à cause de sa souffrance si grande, elle est incapable de reconnaître la présence de Jésus auprès d'elle. Elle le prend pour un jardinier. C'est terrible pour le cœur de Marie de Magdala, parce que son cœur aimant est persuadé de reconnaître Jésus partout où il est. Quand on aime quelqu'un, on sait que l'amour qu'on a pour lui est capable de dépasser tous les travestissements derrière lesquels il peut se cacher. On a une pénétration de regard quand on aime. Et Marie de Magdala, à cause de sa passion trop véhémente, à cause de la douleur trop forte, est incapable de pénétrer au-delà du visible. Il faut que Jésus la réveille de l'intérieur. Jésus lui dit, Marie. Se retournant, elle lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, cesse de me toucher, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va-t'en vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est magnifique de voir comment Jésus en l'appelant par son nom. Il ne dit pas Marie la Magdalène, non, ça c'est le nom de la pécheresse. Il dit Marie, comme il l'avait rencontrée à Béthanie, comme il l'a vue au Golgotha. C'est Marie. C'est le lien intime avec Jésus, ce lien personnel. Et Jésus l'appelle par son nom. Il se réveille dans sa foi, immédiatement, Rabboni, maître. Et on la voit se précipitant sur les pieds de Jésus. C'est son geste propre d'amour, de respect. Et le respect est encore beaucoup plus grand maintenant, puisqu'il y a eu la grande tourmente de la croix, puisqu'il y a eu cette attente terrible de ce sabbat. Jésus est là, elle se précipite à ses pieds. Et Jésus est obligé de lui dire, ne me touche pas. Oh, ce n'est pas du tout un geste qui fait que Jésus l'écarte. Non. Jésus veut la prendre plus profondément dans son cœur. Et c'est pour ça qu'il lui dit cela, ne me touche pas. C'est un nouveau lien d'amour que Jésus veut réaliser entre son cœur et le cœur de Marie de Magdala. Et ce lien, il lui indique, c'est par le Père que Marie de Magdala doit dorénavant rejoindre Jésus. C'est par le Père. Il faut que sa foi soit suffisamment contemplative pour regarder le Père et en regardant le Père, rejoindre celui qui est le bien-aimé du Père. Celui qui est caché dans l'amour du Père. C'est le Père qui doit dévoiler à Marie de Magdala cette nouvelle intériorité qui doit exister entre le cœur de son bien-aimé avec son propre cœur. C'est merveilleux de voir comment Jésus lui fait comprendre cela. Et en lui faisant comprendre cela, Jésus lui donne une force nouvelle. Elle est capable de devenir témoin et apôtre. Et Jésus l'envoie auprès des apôtres. J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. Il est monté vers le Père et votre Père. Il donne rendez-vous aux apôtres en se servant de Marie de Magdala pour les réconforter dans leur espérance et dans leur foi. Parce qu'eux aussi ont trop souffert. Et puis, ils ont été lâches, sauf Jean. Retrouver Jésus après la grande tourmente alors qu'ils l'ont laissé seul. Durant cette grande tourmente. C'est à partir de là qu'on a considéré Marie de Magdala l'apôtre des apôtres. C'est son grand titre. Elle est l'apôtre des apôtres parce qu'elle est la première après Pierre. C'est la première qui a reçu cette apparition de Jésus. C'est la première qui a été réconfortée dans son espérance et sa foi. Après Jean, après Pierre. Et pour les autres apôtres, c'est elle qui doit les réveiller et leur dire qu'il est ressuscité. Il n'y aura que Thomas qui n'aura pas entendu sans doute ce message et qui aura lambiné, qui ne sera pas là au rendez-vous du soir. Marie de Magdala, c'est vraiment la femme d'une générosité unique, qui a été prise par Jésus, qui l'a aimée follement, et Jésus a purifié cet amour et cette générosité. Et cette page, je viens de vous rappeler, nous montre bien toutes les purifications que Marie de Magdala a dû connaître avant de retrouver Jésus dans sa gloire, avant de vivre de la grande victoire de l'amour du Christ. Purification, la pierre du tombeau roulé. Ah, il n'y a que Marie de Magdala qui peut nous dire ce que ça représente. Comme purification. Ça fait briser le projet qu'elle avait, ce projet liturgique si beau, si grand, d'être seule auprès de Jésus, auprès de son cadavre, et de l'embaumer. C'est brisé d'un seul coup. Ensuite, c'est la déception que les apôtres ne peuvent pas l'aider, même Jean. Déception par rapport aux apôtres. Ensuite, les anges eux-mêmes ne peuvent pas l'aider. C'est pas la faute des apôtres. Puisque même les anges ne peuvent pas aider Marie de Magdala, tant sa souffrance est grande. Même la présence de Jésus caché ne peut pas l'aider. Il faut que Jésus ressuscite son âme de croyante, son âme contemplative, son âme aimante. Marie, et c'est en l'appelant par son nom. Et même quand Jésus l'a appelé par son nom, Jésus veut cette ultime purification, ne me touche pas, regarde le Père. Je crois que nous devons demander souvent à Marie de Magdala de nous apprendre à vivre ces grandes purifications de notre générosité pour que notre générosité ne soit pas un obstacle à la contemplation, à l'unité avec Jésus, ne soit pas un obstacle à notre foi contemplative, à notre espérance de pauvre. Il faut que cette générosité soit purifiée. Il faut comprendre auprès de Marie de Magdala ce qu'est la conversion du cœur. Quitter toute une vie de passion. Ça ne se quitte pas d'un seul moment, en un seul instant. Et garder cependant une intelligence et un cœur capable encore d'aimer, et d'aimer Jésus, et de le rencontrer, et de le suivre jusqu'au bout, de le suivre jusqu'au Golgotha, en lui donnant tout. Marie de Magdala, c'est vraiment à la fois celle qui est la patronne de toutes les converties et celle qui est l'apôtre des apôtres pour réveiller les apôtres, pour les empêcher de se replier sur eux-mêmes à cause de la souffrance, à cause de la tristesse, à cause de leur lâcheté, à cause de leur manque d'amour. Marie Magdala, elle donne cette flamme d'amour qui vient du cœur de Jésus et qui a traversé son cœur et qu'elle désire donner aux apôtres.